Un livre que j'ai regardé, j'ai dévoré, non seulement pour les textes, mais surtout pour les images, et qui m'en a appris beaucoup sur les îles du Québec. Là où on apprend qu'il n'y a pas beaucoup de peuplement sur nos îles ici. Là où on apprend également qu'il y a des endroits tout à fait magnifiques chez nous. Et c'est un plaisir d'accueillir l'un des co-auteurs, Philippe Tessera-Lessard, qui est avec nous ce matin. Il est journaliste à la presse, soit dit en passant. Philippe, bonjour.
Bonjour, François.
D'où est venue l'idée de faire un tel livre?
On réfléchissait à des séries d'été. Vous savez, l'été, oui. Les journaux aiment raconter des histoires sur un temps un peu plus long, se détacher un petit peu de l'actualité quotidienne et puis se pencher sur... Des endroits ou des sujets qui permettent aux lecteurs de voyager. Et donc, c'est en réfléchissant à des options pour une série d'été comme ça que nous est venue l'idée des îles du Saint-Laurent. Au début, on avait des idées de grandeur. On se disait qu'on allait parcourir le fleuve en bateau, accostant à chacune des îles. Mais la réalité nous a rattrapés, exactement. Hein. C'est pas... Il y a les marées, c'est pas toutes les îles où on peut accoster facilement. Il y a des rochers, des récifs. Donc, on a décidé de le faire de façon un petit peu plus logique et puis d'emprunter les moyens de transport qu'il faut. Parfois, c'est en hélicoptère, en avion. Parfois, c'est... Un pont, hein? Mm-hmm. Il y a des îles où il y a simplement un pont. D'autres fois, c'est un traversier. Donc, mais on a essayé de donner dans le livre l'idée au lecteur de descendre le fleuve, ou plutôt de remonter le fleuve, en fait, d'est en ouest, le plus naturellement possible.
Bon, j'en ai visité quelques-unes de ces îles-là. Je pense, entre autres, aux îles Mingan, dans la région de cette île.
Exact.
On pouvait faire de la pêche à la jig, à la morue.
C'est vrai.
Entre autres, oui, que j'ai essayé. C'était tout à fait palpitant. Ou encore pêcher juste en face le saumon sur la rivière. Il y a l'île Niapiscou, dont il y a une rivière également qui porte le même nom dans ce coin-là. C'est un endroit qui est en perdition, malheureusement. Uh-huh. Il y a des îles là, qui sont en décrépitude en raison des marées, en raison de toutes sortes de choses. Le dépeuplement également. Uh-huh. C'est des îles belles à visiter, mais c'est pas des îles pour y habiter non plus.
C'est sûr qu'il y a des îles il y a toutes sortes d'îles. Là. Et puis il y a des îles qui, parfois, ont été habitées dans le passé, mais ne le sont plus. Et c'est sûr que quand on visite une île qui a été désertée, et juste après, comme aux îles de la Madeleine, par exemple, on a visité l'île Brion, qui est une île qui a été habitée jusqu'à il y a 75 ans environ, et puis qui est maintenant désertée, qui est maintenant en fait envahie par les phoques. Les pêcheurs s'en plaignent parce que ça leur cause des problèmes. Donc, on visite cette île-là, une île désertée comme l'île Brion, et puis juste ensuite, on visite l'île d'Entrée, qui est une île où il y a une communauté anglophone qui est installée là depuis 150 ans. L'île s'est en fait peuplée à travers des naufrages. Les naufragés se joignaient à la population locale. Mais la population locale est en déclin. Il n'y a plus d'enfants sur l'île. L'école a été fermée. L'école est même en train d'être transformée en musée. Donc, des fois, on se dit, on a une île désertée, puis on a une île en déclin, puis on se demande si l'île désertée n'est pas l'avenir de l'île en déclin. Ça arrive à plusieurs reprises dans notre parcours qu'on a comme ça des images qui s'imposent à nous.
Est-ce que c'est une histoire similaire pour l'île d'Arrington Harbor, entre autres?
L'île d'Arrington Harbor, il y a encore une population qui est variée, des jeunes, des vieux, des adultes. Donc, il n'y a pas la même urgence, disons. C'est des régions qui sont éloignées. Les gens se sont toujours exilés en partie. Ça a toujours été une vie compliquée, hein, Arrington Harbor. Mm-hmm. C'est donc relié à aucune route, là.
C'est plein fleuve. Là.
C'est en plein fleuve, mais je veux dire, même sur la côte, face à Arrington Harbor, même la côte, à ce moment-là, la route est finie. Là. Donc, c'est à l'est de Natashquan, Kegaska, à l'est de la fin de la route. Oui. Et puis, c'est à l'ouest de Blanc-Sablon aussi, là où la route reprend, si on veut. Donc, c'est un mode de vie très isolé. Ça complique tout, en fait. Hein? Ça complique l'approvisionnement. Ça complique aussi la sortie des homards, des autres produits de la mer qui forment le cœur de l'économie, si on veut, là-bas. Donc, c'est des vies qui sont compliquées par l'isolement. Et évidemment, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui décident de se simplifier la vie.
Pour ceux qui veulent se situer, le Blanc-Sablon là, est peut-être à 400-500 kilomètres plus loin, 300 kilomètres plus loin là, vers l'est. Et 150-200 kilomètres vers l'ouest, c'est la Romaine. Alors, quand on parle de la Romaine, c'est vraiment loin. Là.
Oui, c'est loin. Là. On a atteint Harrington Harbor avec le Bella des Gagnés, qui est le bateau qui, chaque semaine, assure l'approvisionnement de la côte, toute la basse côte.
C'est un chalutier encore, ça, hein, je pense, ce bateau-là. C'est un chalutier.
C'est à moitié un cargo, donc il y a une partie approvisionnement, puis à moitié aussi un paquebot, donc une partie pour les passagers, pour principalement les gens qui veulent passer de village en village, qui ont un rendez-vous médical, par exemple.
Il n'y a pas d'avion qui va là.
Il y a des avions qui ne vont pas sur l'île elle-même, mais sur la côte, pas loin, dans un autre petit village.
Donc, c'est des hydravions plus que d'autres choses là, qui vont aller là-bas. Là.
J'imagine que les hydravions peuvent s'approcher davantage.
Parce que quand on parle d'île au Québec, on parle tout le temps des mêmes. Là. Je parle des îles touristiques que j'appelle, comme l'île aux Coudes, l'île Verte, l'île d'Anticosti.
Orléans aussi. Orléans. C'est vrai, mais il faut pas oublier que on parle des îles comme étant des parties infimes de la population qui y habite, mais Montréal est une île, hein. Les Montréalais ont tendance à l'oublier. Laval est une île aussi. Les Lavalois ont tendance à l'oublier. Puis c'est facile de l'oublier quand on vit dans une ville de 1,9 million de personnes, mais on est une bonne partie des Québécois sont des insulaires, puis c'est des réalités complètement différentes, évidemment, que l'insulaire de Harrington Harbor ou de l'île d'Entrée. Mais je pense que ça influence quand même notre mode de vie. On n'a qu'à penser à tout le temps qu'on passe à ce micro-ci, par exemple, pour parler de la circulation sur le pont Champlain. Ça fait partie de notre insularité.
Oui, tout à fait. Et on l'oublie souvent, malheureusement. Si vous aviez une chose à retenir des îles du Québec, là, faisons abstraction, bien sûr, des grosses îles là, qui sont habitées ou qui sont exploitées, comme l'île d'Orléans, par exemple, parce que moi, j'appelle ça une île fermière, beaucoup plus que d'autres choses, parce que ce sont des terres agricoles qui sont là en grande partie. Pensons, entre autres, à Anticosti, où il y a très, très peu de population. Il y a beaucoup plus de chevreuils qui peuvent avoir
beaucoup plus, bien sûr.
D'êtres humains, ou encore, je pense, à l'île d'Orion, au nord, qui fait partie de l'archipel des îles de la Madeleine. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus?
Bien, on en parlait un peu tout à l'heure. C'est à la fois que leur vie est si compliquée par leur isolement, leur vie est rendue compliquée par le fait qu'ils soient isolés, mais à la fois aussi la volonté de ces gens-là, dans plusieurs des îles qu'on a vues, de résister. Puis c'est pas une résistance pour faire de la résistance. C'est qu'ils sont attachés à leur coin de pays, ils sont attachés à l'île où ils sont nés dans plusieurs cas, ou en tout cas où ils vivent. Et leur volonté de faire, j'allais dire contre mauvaise fortune, bon cœur, je sais pas si c'est la bonne expression, mais de vivre avec les complications, de vivre avec la météo. On a vu encore il y a quelques mois les îles de la Madeleine qui ont été complètement coupées du reste du monde, qui sont retournées, qui ont fait un bond vers le 19e siècle d'un coup parce que une tempête hivernale avait coupé l'électricité, avait coupé toutes les communications. Donc ça prend de la volonté quand même pour dire moi je demeure sur ce petit bout de terre jeté au milieu du fleuve, et puis j'accepte ma vie rendue un peu plus compliquée par les circonstances, voilà, c'est cette volonté de résistance là qui m'a frappé le plus.
Si vous voulez voyager à travers le Québec et via les îles du Québec, je vous invite à lire ce livre, Le Saint-Laurent d'île en île, rencontres et paysages de Philippe Tessera-Lessard, photo d'Olivier Pontbriand.
Exact.
Alors, c'est aux éditions La Presse, c'est disponible actuellement. Merci beaucoup, Philippe.
Merci, François.